Vous êtes sur RTL.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une des milliards sonnants et trébuchants pour notre industrie navale.
Alors que s'ouvre à Versailles aujourd'hui le grand raout des investisseurs organisé par Emmanuel Macron, le croisiériste italo-suisse MSC vient de passer commande pour deux paquebots, montant du contrat 2 milliards d'euros, du boulot assuré jusqu'en 2030 au moins pour les chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire, où l'on retrouve tout de suite Patrice Gabart. Bonjour Patrice.
Bonjour.
C'est une nouvelle, on l'imagine, reçue avec enthousiasme.
Oui, ce matin, au chantier de l'Atlantique, les salariés, je me permets l'expression, la banane pour prendre leur service, à l'image d'Edouard, soudeur intérimaire, et Jean-Sébastien Thibault, agent de maîtrise.
Oui, je vais au boulot, le cœur léger. C'est une très bonne nouvelle. L'espérance de pouvoir travailler plus longtemps.
C'est merveilleux, quoi. C'est, pour nous, c'est extraordinaire d'avoir autant de travail à venir pour l'emploi, pour tout, pour les jeunes qui arrivent, surtout aujourd'hui, avec les difficultés un petit peu partout. Les efforts consentis par tout le personnel et notre direction, eh bien, on envoie des issues hyper magiques, quoi, pour nous, parce que c'est 10 ans de travail devant nous, c'est merveilleux.
Et les efforts dont parle Jean-Sébastien, ce sont toutes les innovations technologiques ici à Saint-Nazaire qui ont conduit à la signature de ces nouveaux contrats.
Oui, car l'autre nouvelle, Patrice, c'est que l'armateur s'engage aussi à développer un nouveau type de paquebot fonctionnant presque exclusivement à voile. J'ai bien dit à voile, c'est donc l'avenir.
Oui, car les chantiers de l'Atlantique travaillent aujourd'hui sur un concept de paquebot à voile innovant, avec une voile rigide dont une maquette de 15 mètres est actuellement en test à Pornichet et un mât capable de tourner à 360 degrés, un tour complet pour s'adapter à la direction du vent. L'idée, c'est de réduire de 50% le besoin de propulsion. Et pour les cargos à voile, un autre projet nazérien, Neoline, annonce de son côté pouvoir réduire de 90% la facture de fuel. Et puis, la recherche et l'innovation au chantier de l'Atlantique, c'est aussi la pile à combustible qui équipera les futurs paquebots GNL, gaz naturel liquéfié, pour produire de l'électricité. Une pile pour réduire de 30% l'émission de gaz à effet de serre, sans rejeter ni oxyde d'azote, ni oxyde de soufre, ni particules fines. En résumé, des paquebots beaucoup plus propres, beaucoup plus verts.
Merci beaucoup Patrice Gabart en direct de Saint-Nazaire pour RTL. 2 milliards d'euros donc investis dans les chantiers de l'Atlantique, auxquels il faut ajouter les engagements d'autres grands groupes étrangers. Au total, ce sont 4 milliards qui vont être investis en France, chiffre annoncé hier soir par l'Elysée. Alors que s'ouvre donc aujourd'hui à Versailles, la troisième édition du sommet Choose France, traduisez choisir la France. Coca-Cola va notamment renforcer son réseau de production et de distribution. Le géant du soda va débloquer 1 milliard sur 5 ans.
Alors derrière ces chiffres à faire tourner la tête, hein, a-t-on vraiment vu les investissements étrangers progresser? Eh bien, c'est la question de 8h.
Avec vous Arnaud Touche, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que la France attire toujours?
Oui, depuis la création de ce sommet il y a 3 ans, les décisions d'investissement sont en hausse. Il y en a eu 1323 en 2018. C'est 2% de plus par rapport à 2017 selon Business France. 2017 qui a d'ailleurs été la meilleure année depuis 10 ans, avec une progression cette fois de 16% des décisions d'investissement par rapport à l'année précédente. Elle a permis la création ou le maintien de plus de 33 000 emplois. En revanche, en 2018, le nombre d'emplois maintenus ou créés a été en légère baisse. 4 000 n'ont pas pu être sauvegardés, notamment car des sites en difficulté n'ont pas été repris.
Alors, il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a en ce moment la crise sociale contre la réforme des retraites. Ça n'effraie pas les investisseurs, ça?
Eh bien non, on s'en sort même plutôt bien, selon le baromètre de l'attractivité de la France publié par le cabinet d'audit EY. La France est même passée devant l'Allemagne l'année dernière. Le Royaume-Uni reste toujours devant, en revanche, devant nous concernant les projets d'investissement. Et notre pays attire majoritairement dans deux domaines, la recherche et développement ainsi que l'industrie, même si les investisseurs souhaitent encore plus de simplification et de meilleures conditions fiscales pour s'installer chez nous.
La question de 8h avec Arnaud Touche.
Les patrons de Coca, de Netflix ou encore de Snapchat reçus tout à l'heure à Versailles ne prendront sans doute pas les transports en commun.
Non.
Et pourtant, ils le pourraient, hein, puisque le trafic qui est désormais quasi normal à la SNCF, à la RATP, d'après les prévisions, et ce pour la première fois depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites il y a 47 jours.
RTL Matin, 8h03.
Alors, moins de grève, mais toujours autant de colère contre Emmanuel Macron.
Avec deux attaques ou tentatives d'attaques symboliques ce week-end, le restaurant La Rotonde, dans le 6e arrondissement de Paris, où le président a ses habitudes, a été partiellement incendié. Et vendredi soir, lui et sa femme ont dû être évacués du théâtre des Bouffes du Nord, où ils assistaient à une représentation. Des manifestants ont tenté de pénétrer dans l'établissement. C'était une sortie privée qui ne figurait pas à l'agenda, et elle pose, Thomas Proutot, la question de sa sécurité. Est-elle suffisante autour du président de la République dans ce contexte de forte tension sociale, Thomas?
Eh bien, cela fait plusieurs mois que les hommes du président ont intégré le risque d'actions spontanées, de manifestations éclairs déclenchées par les réseaux sociaux. Emmanuel Macron n'a pas renoncé pour autant à ses déplacements privés, spectacles ou restaurants parisiens notamment. Alors, la veille sur Internet dévolue au service de renseignement a été renforcée, mais les fondamentaux restent les mêmes. Ce sont toujours quatre hommes spécialement entraînés du groupement de sécurité de la présidence qui assure la bulle inviolable autour du chef de l'État, même s'il se trouve au milieu du public. Systématiquement, le groupement de sécurité dispose aussi un homme à l'extérieur de l'établissement pour prévenir immédiatement d'une tentative d'intrusion. C'est ce qui s'est passé vendredi soir et qui a conduit à la mise en sécurité temporaire de Brigitte et Emmanuel Macron. Mais l'Élysée considère qu'il s'agit d'un succès puisque le chef de l'État a pu revenir voir la fin du spectacle. Restent les images du convoi qui repart ensuite sous les huées des manifestants. Des images que la présidence préférerait sans doute éviter, sans solution à ce stade.
Merci Thomas Proutot. Des images qui rappellent une autre sortie présidentielle sous les huées, c'était le 1er décembre 2018 à la préfecture du Puy-en-Velay, en pleine crise des Gilets jaunes. Le chef de l'État était venu voir le bâtiment incendié. Dans cette affaire, quatre hommes sont jugés aujourd'hui au Puy. 18 gendarmes et policiers avaient été blessés lors de cet incendie. Le policier surpris en train de frapper un manifestant gilet jaune samedi à Paris sera entendu dans les tout prochains jours. La vidéo amateur a créé beaucoup d'émoi sur les réseaux sociaux. L'entourage du fonctionnaire affirme qu'on lui avait craché du sang au visage.
RTL, 8h05.
Yann Bailey sera-t-il enfin extradé en France ?
Le Britannique est soupçonné du meurtre de Sophie Toscan-Duplantier en décembre 1996 en Irlande. La femme du producteur de cinéma avait été retrouvée à quelques mètres de chez elle, de sa résidence secondaire. Yann Bailey a été condamné au printemps dernier en France, mais jusqu'ici, l'Irlande a refusé de l'extrader. Une nouvelle audience a lieu tout à l'heure à Dublin. C'est la première depuis qu'il a été reconnu coupable. Le fils unique de Sophie Toscan-Duplantier était ce matin l'invité de RTL, Pierre-Louis Baudet-Vignon.
Je suis impatient. Je suis impatient depuis 23 ans maintenant. Ma mère a été tuée il y a 23 ans en Irlande. Et je mène un combat quasiment jour après jour, année après année. Décision judiciaire après décision judiciaire dans un feuilleton judiciaire et politique aussi entre la France et l'Irlande. Tout tourne autour de cette personne et pour le moment, il ne s'est pas expliqué devant une cour et c'est ce que nous attendons avec impatience.
Le fils unique de Sophie Toscan-Duplantier, Pierre-Louis Baudet-Vignon, invité ce matin d'RTL.
Dans un instant, un immeuble dans deux villes différentes.
Donc là, ici, vous êtes à Marny, on est dans le salon et de l'autre côté, on passe dans la cuisine, on se retrouve à Compiègne.
Alors, question, comment vont-ils faire au municipal ? La réponse dans un instant.
RTL, 8h07.
RTL Matin.
RTL 8h08, la suite du journal Jérôme Florin, Yves Calvi.
Et à moins de deux mois des municipales, gros plan sur des électeurs tout à fait particuliers.
C'est ce qui s'appelle avoir le fessier entre deux chaises. Voilà. Dans l'Oise, ils vivent dans le même immeuble, on pourrait même dire sous le même toit, mais n'ont pas le même maire. Le bâtiment est partagé entre deux communes, Compiègne et Marny-les-Compiègnes. Ça fait 30 ans que ça dure. Et encore aujourd'hui, Morad Jabari, le quotidien n'est pas simple.
Oui, deux adresses différentes, mais la porte d'entrée de l'immeuble est la même. Et dans son appartement, Vincent passe d'une ville à l'autre. En quelque part.
Donc là, ici, vous êtes à Marny, avec vue sur la mairie. On est dans le salon, et de l'autre côté, quand on passe dans la cuisine, on se retrouve à Compiègne.
Un immeuble coupé en deux, et le casse-tête arrive lorsqu'il faut payer ses factures.
Au niveau des impôts sur le revenu, les garages sont aussi sur Marny, donc ce qui fait qu'on paye une petite partie à Marny, une autre partie à Compiègne.
Deux adresses, deux taxes d'habitation, difficile d'ouvrir un compteur électrique ou de se faire recenser. Et à quelques semaines des municipales, d'un appartement à l'autre, on ne vote pas pour le même maire.
On a fait le choix de voter à Compiègne parce que, à la limite, on savait pas.
Un vote presque à la carte. Anne-Françoise et Francis ont fait leur choix.
On sent bien qu'on est un enjeu électoral qu'autre chose. On est compiégnois.
Ouais, c'est notre adresse officielle.
Mais vous votez à Marny.
Et on vote à Marny.
Parce que la cave et puis le garage sont sur Marny.
Oui. De là bien qu'on préfère la cave à la ville.
Une situation qui dure depuis 30 ans où finalement les habitants s'en accommodent. Comme le facteur.
Reportage de Morad Jabari.
C'est de Compiègne ou de Marny ?
Alors, notre réalisateur Raphaël nous dit que sur sa commune des Yvelines, il y a donc une maison qui est placée sur deux communes et que le lit du couple est exactement sur les deux communes. Monsieur est dans une ville et madame est dans une autre ville.
Bah, ça mérite un reportage là aussi.
Absolument, on ira. Merci Raphaël. Le bac, c'est déjà maintenant pour 500 000 d'élèves de première qui planchent à partir de ce matin sur les nouvelles épreuves du contrôle continu. Il y aura trois séries qui représenteront 30% de la note globale.
RTL 8h09.
Un recruteur de Daesh au tribunal tribunal.
Mourad Fares a 35 ans, il est jugé à partir d'aujourd'hui devant les assises de Paris. Il comparaît pour association de malfaiteurs terroristes. Il risque jusqu'à 30 ans de prison pour avoir entraîné en Syrie de nombreux jeunes Français comme ce Toulousain qui veut rester anonyme. Il était mineur à l'époque, il n'est pas resté longtemps. Il est rentré en France. Patrick Hisson a rencontré son père qui témoigne pour RTL.
Pour moi, il était victime effectivement puisqu'on lui a vendu de l'humanitaire. On lui a demandé de l'aide pour venir en aide aux enfants syriens qui se faisaient crever les yeux par les pro-Bachar et ainsi de suite. On s'est servi d'eux, mais effectivement, une fois sur place, ils se retrouvent otages en fait, privés de tout.
S'il n'y avait pas eu une logistique comme celle qui a été mise en place par cette filière ou d'autres filières, on le verra, votre fils ne serait pas parti ?
Il ne serait jamais parti. Donc ça va de l'organisation du départ, du retrait d'argent, des déplacements, des arrivées, une logistique réelle qui était là. Comment ils ont manipulé ces gosses depuis l'étranger pour les râper dans leurs draps de fanatiques, de terroristes, de criminels pour servir d'eux de chair à canon. Donc j'attends des réponses claires qui s'assument, même si je suis conscient qu'ils ne parleront pas de toute façon.
Voilà, procès de ce recruteur de Daesh qui s'ouvre aujourd'hui à Paris. Témoignage du père d'une des victimes, d'un des jeunes qui a été entraîné, recueilli par Patrick Hisson pour RTL. Et puis, c'est la première fois qu'on entend le son de sa voix depuis sa prise de distance avec la couronne britannique. Harry a fait part de sa grande tristesse d'avoir fait le choix de se mettre en retrait. La décision que j'ai prise pour ma femme et moi n'a pas été prise à la légère. Il n'y avait pas d'autre choix. Je veux être clair, nous ne nous éloignons pas. Quand ma mère est décédée, vous m'avez pris sous votre aile. L'émotion d'Harry, donc, hier soir, c'était lors d'un dîner de charité à Londres. En football, parmi les résultats des 16e de finale de la Coupe de France, la victoire du PSG, qu'il a timidement emporté sur Lorient 1-0. À Paris, d'ailleurs, Cavani, c'est visiblement fini. Leonardo, le directeur sportif du club, a confirmé les velléités de départ de l'Uruguayen. Ce devrait être réglé d'ici la fin du mois. Ce soir, le club amateur de Saint-Prive-Saint-Hilaire affronte Monaco.
L'histoire du jour ?
Vous connaissez l'expression anglaise « an elephant in the room » ?
Non.
Un éléphant dans la pièce, ça veut dire qu'il y a un sujet que personne n'ose aborder.
Ah, voilà.
Eh bien, c'est arrivé pour de vrai dans un hôtel du Sri Lanka, devant une caméra et le regard médusé d'un employé ou d'un client. Un éléphant se promène dans les couloirs d'un hôtel. Il fait même tomber une lampe. On vous met cette vidéo hypnotique sur notre site RTL. Ça, c'est la lampe qui tombe.
Voilà.
Et le monsieur appelle l'éléphant qui ne répond pas.
Viens ici, Dumbo.
Il s'est trompé, visiblement, d'endroit. Vidéo sur RTL.fr. Ouais,
c'était le journal de Jérôme Flora.
RTL
8h12.
Il répond toujours pas.
Oui, non, mais c'est le monsieur qui parle en Sri Lankais. Bon, bah, quand tu viens, on aura cette conversation avec l'éléphant une autre fois. À 8h30, votre rendez-vous, vous êtes comme ça, le reportage de la rédaction d'RTL qui vous fait découvrir des initiatives d'avenir. Ce matin, direction Tarbes, à la rencontre d'une entreprise au pied des Pyrénées qui produit le plastique du futur. Il est 100% biodégradable à base d'amidon de céréales.
Alors là, vous faites un café avec une de vos capsules.
Oui, Végéplace fabrique des capsules pour l'Obodis. Donc là, on a un très très bon café avec une capsule qui se dégrade en 6 semaines dans le compost pour les agriculteurs.
Je n'irais pas dire qu'on change le monde, mais on y contribue à notre manière et puis on est aussi au début de quelque chose.
Rendez-vous à 8h35.